Le Seigneur nous invite souvent dans l'Évangile à prendre soin les uns des autres, et parfois d'une manière déroutante, ou du moins une manière à laquelle humainement nous ne pensons pas immédiatement. Car la grande tentation pour nous chrétiens est de lire les textes bibliques horizontalement, en particulier l'Évangile, et d'oublier quelle est sa dimension profondément salutaire. C'est pour cela qu'avant de développer deux aspects que l'Évangile du jour nous donne à méditer pour notre propre vie, je voulais prendre le temps, au début de cette nouvelle année paroissiale, de nous inviter à reprendre conscience de ce qu'est l'Évangile. Et de deux manières. D'abord, de reprendre les rites qui accompagnent la proclamation de l'Évangile. Comme vous le voyez, avant d'aller proclamer l'Évangile, le prêtre ou le diacre vient s'incliner devant l'autel qui manifeste le Christ et dit cette prière dans son cœur « Purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu très saint, pour que je fasse entendre à mes frères la bonne nouvelle. » Le Seigneur vient habiter la bouche de celui qui proclame, parce que ce n'est pas tel prêtre ou tel diacre qui proclame l'Évangile, c'est Jésus lui-même qui s'adresse à nous. Et c'est manifesté par les lumières, les cierges qui entourent l'Évangile, qui nous rappelle que le Christ dit dans l'Évangile qu'il est la lumière du monde et que la proclamation de l'Évangile proclame le Christ lui-même. Il y a aussi l'encens qui manifeste que l'évangéliaire est la présence aussi du Seigneur. C'est pour cela qu'à la fin, le prêtre ou le diacre vénère, embrasse l'Évangile et qu'il dit ces paroles, que les paroles de l'Évangile efface nos péchés. Et pendant l'Évangile, qui peut d'ailleurs parfois être chanté pour rappeler son importance particulière dans toute la parole de Dieu, l'encens continue de monter vers le Seigneur pour nous rappeler que l'odeur du Christ qui jaillit du Saint-Évangile doit venir s'imprégner dans nos cœurs. Oui, chaque proclamation de l'Évangile nous rappelle que la raison de la venue du Sauveur Jésus-Christ et le pardon des péchés, comme le manifeste, comme je le disais, cette dernière prière du prêtre ou du diacre en vénérant l'Évangile, que les paroles de l'Évangile effacent nos péchés. Ainsi, nous pouvons demander au Seigneur de toujours accueillir la proclamation de l'Évangile et de la lecture de la parole de Dieu en général, y compris les passages que peut-être nous connaissons mieux, qui peuvent nous paraître peut-être assez simples à comprendre, avec une certaine gravité. Oh, gravité ne veut pas dire angoisse ou tristesse. Au contraire, lorsque nous accueillons l'Évangile, c'est la joie profonde et la louange qui jaillissent de cette gravité. Mais l'Évangile, rappelons-le, n'est pas que le récit des événements de la vie d'un homme extraordinaire, mais l'Évangile, lu dans l'Église, avec l'assistance de l'Esprit-Saint, et comme l'a rappelé le Concile Vatican II dans Dei Verbum, la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale. Alors, quelle vérité salutaire et quelle règle morale l'Évangile de ce jour, à la lumière des autres lectures, contient-il ? Je n'en retiendrai que deux, il y en a évidemment d'autres. Mais Jésus nous dit cette parole, « Si ton frère a commis un péché contre toi. » Eh bien, il est bon de nous rappeler d'abord cette vérité que le péché existe. Et Jésus nous dit donc cette phrase, « Si ton frère a commis le péché. » Il faut aussi nous rappeler que par le baptême, nous sommes établis frères et sœurs dans la foi. Et les lectures de ce jour nous invitent à prendre soin les uns des autres d'une manière tout à fait particulière. C'est ce que l'on appelle, dans le jargon un peu spirituel, la correction fraternelle. Mais pour pouvoir la mettre en œuvre, pour pouvoir prendre soin de notre frère et pouvoir lui dire lorsqu'il s'éloigne de la loi de Dieu, Eh bien, accueillons d'abord deux conditions, savoir discerner le péché et nous reconnaître véritablement frères et sœurs dans le Christ Jésus qui nous a rachetés par son sang. Tout d'abord, cette dimension fraternelle. Dans le Nouveau Testament, on peut compter 313 fois le terme adolphos, qui veut dire frère, ce qui est beaucoup comme occurrence biblique. Et tant dans les évangiles que les lettres, y compris dans l'Apocalypse, nous connaissons bien Paul qui commence souvent ses lettres en disant frère, eh bien nous pouvons nous demander comment nous considérons-nous comme des frères, cette communauté, ici, maintenant. Notre communauté de ce matin se considère-t-elle comme une assemblée de pauvres et de sauvés, unis par le lien du Christ mort et ressuscité pour nous donner sa vie? Demandons au Seigneur la grâce d'être renouvelés dans cette dimension de notre foi, que nous puissions nous comporter non pas comme des étrangers les uns vis-à-vis des autres, mais comme des enfants qui n'ont qu'un seul Père qui est aux cieux et que Jésus nous a manifesté. Il suffit de regarder nos propres familles pour ne pas avoir à nous étonner de la diversité de l'Église. Et c'est beau de parler d'une fraternité universelle entre les peuples, mais quand on n'est pas capable au sein même de la communauté paroissiale, de la propre famille qu'est l'Église, de le vivre, alors nous pouvons être à côté de la plaque. Demandons au Seigneur de vivre cette fraternité réelle, des baptisés, des enfants de Dieu, joyeusement et sérieusement, nous considérer les uns les autres comme des frères. Et cette fraternité spirituelle nous convie à nous porter les uns les autres dans la prière, dans l'affection, dans le soutien lors des difficultés, aussi dans les contradictions, et nous conduit, Jésus nous le dit dans l'Évangile, à prendre soin les uns des autres en nous avertissant aussi mutuellement du péché. Demandons au Christ Jésus, comme dit l'Épître aux Romains, premier-né d'une multitude de frères, de nous renouveler profondément dans la dimension fraternelle de notre foi. Jésus nous dit, si ton frère a péché contre toi, pas si ton frère n'est pas d'accord, pas si ton frère n'est pas gentil, mais s'il a péché. Jésus nous indique qu'il y a donc des situations objectives de péché, c'est-à-dire qu'il y a des pensées, des paroles, des actions et des omissions qui sont contraires à la loi de Dieu, qui déplaisent à Dieu et qui l'offensent profondément. Dans la deuxième lecture de ce jour, saint Paul nous en rappelle plusieurs. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Et il nous rappelle que toute la loi est finalement résumée dans l'amour et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Bien sûr que le Seigneur est peiné lorsque ses enfants s'éloignent de lui dans le péché. Alors nous pouvons demander au Seigneur aussi aujourd'hui de reprendre conscience de la gravité de ce qu'est le péché. Non pas pour nous culpabiliser, mais au contraire pour accueillir ce que Jésus veut venir nous donner, son salut. Le vénérable Pie XII disait que le péché du XXe siècle était justement la perte du sens du péché. Et saint Jean-Paul II, en 84, dans une exhortation apostolique justement consacrée à cela, rappelait que la perte du sens du péché était profondément liée à la perte du sens de Dieu, et nous comprenons pourquoi. Et finalement, parler du péché, c'est un acte de charité, je dirais même de miséricorde, en nous rappelant la troisième œuvre de miséricorde spirituelle qui est d'exhorter les pécheurs. Alors qu'est-ce qu'un péché ? Le catéchisme nous enseigne que le péché est une faute contre la raison, la vérité et la conscience droite. Le péché est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain à cause d'un attachement pervers à certains biens. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Le numéro 1849, si vous voulez, cet après-midi, vous y replongez. Et finalement, le péché est résumé par saint Augustin par ces mots, c'est une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. Alors si nous avons l'impression de ne pas avoir commis de péché, c'est peut-être que nous ignorons la loi éternelle de Dieu, et à cela il n'y a qu'un remède, c'est lire la Bible. Et oui, il n'y en a pas d'autre. Alors, demandons au Seigneur, chers frères et sœurs, à l'invitation de Jésus, nous qui sommes ce matin bien plus que deux ou trois réunis en son nom, de nous donner les grâces dont nous avons besoin. D'abord que nous puissions nous reconnaître et agir comme des frères et sœurs dans la foi et nous comporter comme tels. Que nous puissions aussi prendre conscience de la gravité du péché pour nous-mêmes et chercher à nous convertir. Et que nous puissions prendre soin de nos frères dans la foi pour avertir ceux qui s'éloignent du salut en enfreignant la loi d'amour du Christ et qui refusent, comme cette personne dont parle le Christ dans l'Évangile, d'entendre l'appel à la repentance. Que l'intercession puissante de la Vierge Marie nous obtienne ses grâces pour notre communauté. Amen.